France Info.
Et ce n'est pas forcément inscrit sur votre calendrier, mais sachez que ce vendredi 29 juillet, c'est le jour de la libération fiscale pour nous autres Français. Autrement dit, nous avons fini de payer les impôts et les charges sociales. On travaille à présent pour nous-mêmes. Et on s'aperçoit d'ailleurs que la France a un triste record. C'est le pays d'Europe où ce jour de la libération fiscale arrive le plus tard dans l'année. Pour en parler, nous sommes en ligne à présent avec Cécile Philippe. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes directrice générale de l'Institut économique Molinari qui a réalisé justement cette étude. Mmh. Et puis avec nous également Jacques Lecacheux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur du département des études de l'OFCE. Vous êtes très critique à propos de cette étude de l'Institut Molinari. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Mais d'abord, Cécile Philippe, qu'est-ce que vous voulez montrer en calculant ce fameux jour de la libération fiscale ?
Eh bien, en fait, on veut montrer, c'est une sorte d'indicateur de liberté économique, on veut montrer ce que le salarié moyen, puisque c'est le cas auquel on s'intéresse, eh bien, paye en termes de charges sociales et impôts, et donc ce qui, au bout du compte, lui reste en termes de pouvoir d'achat, ce avec quoi il peut, ce qu'il peut dépenser tout à fait librement une fois toutes ses obligations acquittées.
Alors Jacques, allez-y, oui.
Oui, et puis évidemment, l'étude ne se limite pas à ce simple calcul, puisque effectivement, il s'agit de calculer des coûts. Il s'agit aussi de s'intéresser à, au fait de savoir si on en a pour notre argent. Est-ce que la qualité est au rendez-vous du montant des prélèvements obligatoires payés par le salarié moyen ?
Alors, Jacques Lecacheux, vous dites globalement que ce calcul ne correspond à pas grand-chose, hein, si j'ai bien compris.
Oui, en fait, quand on parle de libération fiscale du salarié moyen, en fait, le salarié moyen, d'abord, n'est pas très moyen. Et puis, il correspond à peu près à personne, puisque en France, les prélèvements obligatoires, notamment l'impôt sur le revenu, sont personnalisés. Donc, ça dépend du nombre d'enfants, ça dépend de la situation conjugale, etc., etc. Donc, en fait, ce salarié dit moyen dans l'étude, c'est en fait un célibataire et c'est quelqu'un qui gagne sensiblement plus que la majorité des Français, quand même.
Oui, Cécile Philippe, ça correspond à quelque chose ? Ça sert à quelque chose, alors, de calculer comme ça ?
Et je pense que c'est exactement là l'intérêt en fait de l'étude qu'on produit maintenant pour la 7e fois, parce que justement ça permet d'avoir une idée un ordre de grandeur concernant justement l'impôt sur le revenu, parce que finalement ce qu'on constate c'est que l'impôt sur le revenu ne représente que 8% de la fiscalité qui pèse sur le salarié moyen, c'est-à-dire que les charges sociales, patronales, salariales, la CSG, la CRDS, la TVA, tout ça, ça représente 92% de ce qui pèse sur le salarié moyen. Et c'est pour ça qu'en fait, l'intérêt véritablement de ce calcul qu'on fait régulièrement, c'est de montrer que dans le cas de la France, la vraie question, c'est le poids des charges sociales. Ça a un impact sur le pouvoir d'achat du salarié moyen, ça a un impact sur le niveau de chômage, ça a un impact sur l'attractivité et la compétitivité de notre pays. Et donc, ça vaut le coup de simplement même faire ce constat, parce que du coup, ça élimine aussi un certain nombre de questions dont on peut franchement se demander s'ils sont légitimes, comme vous le savez avec le prélèvement à la source. Est-ce que véritablement le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une question primordiale dans un pays où 92% de la fiscalité est déjà prélevée à la source et dans des montants extrêmement élevés.
Jacques Lecacheux, directeur du département des études de l'OFCE, vous êtes d'accord avec cette vision du jour de la libération fiscale ?
Non, pas vraiment. Enfin, partiellement. Évidemment, les cotisations sociales en France sont très élevées, mais 92%, c'est tout sauf l'impôt sur le revenu, y compris la TVA, etc., qui ne sont pas prélevés à la source. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en contrepartie de ces cotisations sociales, il y a évidemment des prestations qui, dans d'autres pays, sont privées et qui, en France, sont fournies par le secteur public, comme les retraites, comme l'assurance maladie, comme l'éducation, l'enseignement supérieur, etc. Donc tout ça, c'est pas de l'argent qui est donné à l'État en pure perte.
Alors est-ce que ça permet pas quand même cet indicateur de se situer par rapport aux autres pays qui nous entourent, de voir un peu où on en est ? Ça peut être quand même un bon indice.
C'est un indice, effectivement, mais tant qu'on n'est pas en contrepartie ce que le secteur public fournit à ce salarié moyen en termes de services, en termes d'assurance et notamment en termes de retraite. Vous savez qu'en France, les cotisations sociales sur les retraites sont relativement élevées et qu'en contrepartie, les prestations retraite de l'assurance vieillesse publique sont beaucoup plus élevées que dans la plupart des autres pays européens. Donc tout ça, ça doit être pris en compte, évidemment.
Alors oui. Cécile Philippe, directrice générale de l'Institut Molinari, vous envisagez de modifier le mode de calcul de votre jour de libération fiscale ?
Mais non, parce qu'en fait, notre étude, elle répond à la question que pose M. Le Cacheux. En fait, nous, on prend évidemment, heureusement qu'il y a des prestations en échange de ce qu'on paye. Et évidemment, nous, on se permettrait jamais de l'imaginer autrement. Et c'est pour ça qu'on prend la peine de croiser nos données avec des indicateurs qui mesurent justement le bien-être. Et quand on les croise justement, nos données avec des indicateurs internationaux comme l'indice de développement humain des Nations Unies, comme la dernière livraison de Better Life, on se rend compte que finalement la France n'est pas placée à la hauteur de ce qu'elle dépense et qu'effectivement ça vaut le coup de se poser la question de l'efficacité de la dépense publique. Et Monsieur Le Cacheux parlait justement des retraites, mais est-ce qu'on ne doit pas justement se demander si notre système de retraite fonctionne de façon optimale quand on sait qu'il est régulièrement en déficit et que la dernière livraison du Conseil d'orientation des retraites montre que le pouvoir d'achat des retraités d'ici à 2040 pourrait baisser jusqu'à 22% de son pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, il y a une véritable légitimité à se demander si en France on en a pour notre argent, si c'est comme ça qu'on doit continuer à organiser notre modèle de financement et d'organisation du modèle social. Donc, ça me paraît être des questions légitimes qui, d'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme, étaient extrêmement bien exprimées, à savoir qu'on doit suivre l'emploi de notre contribution au denier public. Quoi. Alors, on ne signe pas un chèque en blanc. Quoi.
Jacques Le Cacheux, rapidement, le débat est quand même légitime, non ?
Bien sûr, évidemment, nous aussi, tout le monde s'intéresse à savoir si notre argent est bien utilisé par le secteur public. Mais du coup, bien sûr, ça c'est tout à fait légitime, mais du coup, le jour de libération fiscale en tant que tel, s'il n'est pas combiné avec tout le reste que vous mentionnez, mais qui n'est pas évoqué dans ce jour de libération fiscale,
il est évoqué dans pratiquement tous les articles maintenant.
Je crois qu'on n'arrivera pas.
L'objectif, c'est d'avoir ce vrai débat, justement, sur le rapport coût-qualité.
Voilà, alors on a eu le débat sur France Info. Je crois malheureusement qu'on n'arrivera pas à vous réconcilier tout de suite. Merci à vous, en tous les cas.
Merci.
Cécile Philippe, merci à vous, Jacques Le Cacheux, d'avoir évoqué sur France Info donc, ce jour de la libération fiscale.
France Info, 12h, 14h, Éric Chataignon.